Bonsoir. Donc c'est toujours très compliqué de faire la synthèse d'une journée, surtout que celle d'aujourd'hui a été particulièrement dense. Je suis venu avec mon ordinateur, donc peut-être certains d'entre vous pensent que j'ai eu le temps de faire un PowerPoint pendant la journée et de vous le présenter avec les grands moments de la journée, mais non, c'est juste que j'ai pris des notes et que je travaille beaucoup à l'écran maintenant. C'est toujours compliqué de faire une synthèse, en effet, parce qu'on a tendance à un peu ressasser maladroitement, d'ailleurs, ce qui a été dit au cours de la journée, parce que c'est toujours... vous savez, dans les colloques, il y a toujours des rapporteurs qui sont toujours des rapporteurs infidèles de ce qui a été dit. Donc moi, j'ai préféré, plutôt que de faire une vraie synthèse que je ne saurais pas faire, faire une sorte de Macédoine entre ce qui a été dit aujourd'hui, un certain nombre d'éléments de cadrage, parce que je pense que c'est important de contextualiser la question des migrants et des réfugiés aujourd'hui en France, et puis essayer de tracer à partir de ce que vous avez dit aujourd'hui des perspectives, parce que je crois qu'il faut aussi essayer de ne pas être le nez sur le moment et de se projeter un peu dans l'avenir et aussi l'avenir de nos métiers dans le secteur de la culture. Donc le tout dans un temps limité. Donc je vais essayer d'être relativement succinct et précis à la fois. Alors tout d'abord, je voudrais revenir, c'est une sorte de rembobinage du film sur le début de la matinée, parce que je pense que ce qui a été dit à la fois par Yvan Gastaud et Émilie Guillemin ce matin, à la fois sur l'histoire de l'immigration et sur la manière dont se passe l'accueil des migrants en France, ça me paraît extrêmement important. Parce que je pense que c'est très important que les professionnels que vous êtes s'imprègnent bien de la réalité sur le long terme de l'histoire de l'immigration en France, qui est, comme Yvan Gastaud l'a très bien rappelé, je ne vais pas le refaire une deuxième fois, une histoire très longue, puisque vous savez que la France est à la fois le seul pays d'Europe qui a été un grand pays d'immigration depuis 2 siècles, ce qui fait beaucoup. Et aujourd'hui... Yvan n'a peut-être pas insisté beaucoup là-dessus, mais aujourd'hui, vous savez qu'on est l'avant-dernier pays de l'OCDE pour le nombre de migrants entrant chaque année. Donc on est un pays qui a une histoire d'immigration qui est passée. Aujourd'hui, les grands médias et certains partis politiques affolent les Français sur la fermeture des frontières et sur la nécessité de contrôler les flux. Mais bon, je vous rassure, si certains d'entre vous étaient inquiets, les flux en France sont assez bien maîtrisés, puisque en gros... il n'y a pas plus d'étrangers aujourd'hui en proportion de la population qu'en 1900. Et le pic migratoire, ce n'est pas 2016, c'est 1931. Vous savez que dans les recensements de population en France, c'est le moment où il y a la plus grande part d'étrangers dans la population française. Ça n'a pas fait exploser la société française. Sur la question des réfugiés, puisque c'est le grand sujet d'actualité, vous savez que la France s'était engagée à accueillir 15 000 réfugiés sur 2 ans, 20 000 sur 2 ans, pardon, 15 000 en un an, au moment de la crise en septembre dernier. Les Allemands avaient promis d'en accueillir maximum 1 million, ils en ont accueilli 1 100 000. Nous, on en a accueilli moins de 1 000 en 2015, venant de Syrie et d'Irak. Donc, est-ce que la France, on a parlé un peu des moyens pour accueillir les migrants, est-ce que la France n'a pas les moyens de bien accueillir ces migrants? Moi, je pense qu'elle a les moyens. Et d'ailleurs... puisque c'est l'objet de la journée aujourd'hui, je pense que le service public de la culture pourrait être davantage mis au service de cet accueil qu'il l'est jusqu'à aujourd'hui, tout simplement parce que les administrations qui sont en charge de l'accueil et celles qui sont en charge de la culture ne se parlent pas beaucoup, et donc il manque une espèce de porosité entre ces différents secteurs. On a parlé beaucoup aujourd'hui de l'apprentissage du français. Alors quelqu'un a dit, monsieur, je crois qu'il fallait créer un service public d'apprentissage du français. Alors je vous rassure aussi tout de suite, dans le cadre du contrat d'intégration républicaine, parce que le contrat d'accueil et d'intégration s'est terminé, il y a une nouvelle loi qui est sortie le 7 mars 2016 qui a remplacé l'ancien contrat, vous verrez la nuance sémantique, d'accueil et d'intégration par le contrat d'intégration républicaine. Dans ce nouveau dispositif qui est en cours de mise en place, il y a 200 heures de français obligatoires pour tous les migrants qui signent le contrat. Et il y a 50 000 personnes par an qui vont suivre ces formations. Donc ça représente, je n'ai pas le budget exact qui va être mis en œuvre par l'OFI, et d'ailleurs sous-traité non pas au réseau de lecture publique, mais à des organismes privés, hein, cet apprentissage du français, il existe. Donc, il faut plutôt penser l'action des organismes culturels comme un complément sur comment on fait société commune, parce que je pense qu'il n'y a aucune institution culturelle qui a les moyens de se substituer aux moyens d'accueil et d'intégration qui existent en France, qui sont critiquables pour plein de raisons que je n'ai pas le temps de développer, mais je pense qu'il faut bien essayer de s'inscrire dans une sorte de complémentarité avec ce qui est financé par l'État et obligatoire, parce que dans la durée, et là je vous renvoie aux chiffres, notamment de l'enquête INSEE-INED qui a été citée plusieurs fois dans la journée, quand on regarde les chiffres et sur les descendants de migrants, l'intégration en France, elle ne va pas sans poser de questions à la société, mais elle fonctionne aussi. Il y a un service public qui est là. Les enfants, quelqu'un ce matin posait la question des enfants mineurs isolés. Je vous signale, vous pouvez aller voir, c'est pas très loin d'ici, en tramway. Le CASNAF de Paris fait un travail formidable, et notamment dans le domaine culturel, avec les migrants isolés qui sont accueillis donc à l'école. Donc il y a un certain nombre de choses à faire. Je pense que moi je conduis une mission pour la ministre de la Culture, justement sur comment mieux mettre le service public de la culture au service d'un meilleur accueil des migrants et des réfugiés en France. Ce qui m'apparaît surtout, c'est un manque de travail en commun entre des administrations, le ministère de l'Intérieur d'un côté, qui regroupe tous les services qui sont en charge des étrangers maintenant, et puis le secteur culturel. Il n'y a pour l'instant pas d'habitude de travail en commun, et c'est un grand gaspillage d'énergie. Et moi qui ai assisté à toute la journée pour pouvoir en faire la synthèse, je salue aussi les bibliothécaires en général comme corps professionnel, parce que je trouve que vous faites un travail formidable dont on ne parle pas beaucoup. Souvent, vous êtes en première ligne sur l'accueil des réfugiés et des migrants, donc ça mériterait d'être davantage connu et reconnu. En tout cas, dans mon futur rapport à la ministre, je ne manquerai pas de signaler que ce n'est pas les grands établissements culturels nationaux qui sont en première ligne pour accueillir les migrants, même s'ils font leur travail, ce sont plutôt les équipements de proximité. Et je pense que c'est toujours très important de le rappeler, à la fois parce qu'ils répondent effectivement à des besoins immédiats des migrants, mais aussi parce qu'ils sont une porte ouverte gratuite vers la culture, et que ces portes ouvertes, les migrants, contrairement à la manière dont on les présente comme des personnes victimes et passives, souvent les gens savent se saisir des portes ouvertes pour rentrer, pour faire société commune. Ce matin, on a parlé aussi dans l'histoire de l'immigration. Yvan Gastaud a dit que les années 80, c'était le moment du basculement, parce que c'est le moment où on a commencé à s'intéresser à l'intégration culturelle. Alors c'est vrai, parce qu'il y a notamment le rapport de Françoise Gaspard en 1982 qui a introduit l'idée justement de faire culture commune avec les migrants et surtout leurs enfants qui sont français. Ce rapport de Françoise Gaspard, vous pouvez le relire aujourd'hui, il est disponible, je crois, à la médiathèque du musée d'histoire de l'immigration. Moi, je l'ai relu il n'y a pas très très longtemps, et c'est assez troublant, parce qu'on a l'impression qu'on a énormément fait marche arrière depuis les années 80, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez le changement sémantique, contrat d'intégration républicaine, c'est que la dimension culturelle n'est plus du tout mise en valeur dans les dispositifs publics d'accueil et d'intégration, et je pense que c'est une opinion personnelle. Je pense que, au contraire, si on veut faire société commune et créer du sentiment d'appartenance, à la fois chez les Français et chez les gens qui arrivent en France, c'est quand même la culture qui véhicule ces valeurs collectives et universelles, et donc raison de plus pour essayer de développer nos projets. Alors, effectivement, la question qui s'est posée tout au long de la journée, c'est comment les bibliothèques, les médiathèques et plus généralement les institutions culturelles peuvent mieux faire leur travail d'accueil des migrants. Donc, on a bien vu qu'en fait, le problème qui est souvent posé, c'est l'endroit où on positionne le curseur entre faire son métier de manière générale, en traitant les migrants et les réfugiés comme des usagers normaux, dans certaines limites d'adaptation qui sont plus ou moins souples. En fait, si on essaye de... J'ai essayé de lister les différents points sur lesquels on pouvait jouer mais que Lola a aussi très bien pointé dans son étude. J'ai trouvé cette étude très intéressante parce qu'elle est assez exhaustive justement dans l'énumération des moyens d'action possibles. Moi, j'ai vu des points sur lesquels on pourrait travailler à l'avenir. Il y a déjà la question de la formation des agents, alors c'est vrai pour tout ministère de la Culture, au contexte interculturel, parce que je pense qu'il y a beaucoup de formations initiales dans nos métiers où les gens ne sont pas du tout préparés à ce type de contexte, et je pense que ça serait très important d'y réfléchir. Sur la question de la spécificité des publics migrants et de la spécificité des offres que les bibliothèques devraient faire dans leur direction, moi j'ai assez bien aimé une sorte de quelque chose qui n'est pas un principe général justement, mais qui est plutôt une praxis générale des professionnels des bibliothèques, c'est que en fait on traite les gens de manière assez égalitaire. Les cours de conversation à la BPI ne sont pas réservés aux demandeurs d'asile ou aux réfugiés ou aux migrants. Ça s'intéresse à tous les gens qui veulent apprendre le français. Et donc finalement, le mixage des populations se fait assez naturellement par le fait que la bibliothèque est un lieu ouvert. Je crois que ça a été dit encore il n'y a pas très longtemps dans une intervention. Il y a quand même une question qui est centrale dans vos interventions, c'est la question de la langue, enfin des langues et de l'apprentissage de la langue française. Alors moi, j'ai un peu senti, depuis 6 mois dans ma mission, le même genre de tension qu'on a senti aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 2 camps qui s'affrontent. Ceux qui pensent qu'il faut apprendre tout de suite le français, parce que plus vite on parlera français, plus vite on sera intégré dans la société française. Et si on peut, au passage, abandonner sa culture d'origine, voire sa langue d'origine, et encore mieux sa religion, ça serait encore mieux. Et puis d'un autre côté, il y a les gens qui disent, mais non, c'est une compétence le plurilinguisme, d'ailleurs ça peut être utile à l'économie française, etc., etc. Entre les deux, moi j'ai remarqué, enfin en tout cas l'impression que j'ai eue aujourd'hui, c'est que dans les bibliothèques, on se prend un peu moins chou que dans les ministères, mais on est un peu plus pragmatique encore une fois. C'est-à-dire que j'ai remarqué qu'en fait il y a systématiquement une offre maintenant dans les langues et cultures d'origine, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a quelques années. Enfin, ça a été le cas dans les années 80, à l'époque de l'ADRI. Ça a été moins le cas ces dernières années. C'est à nouveau le cas. Et moi, personnellement, je trouve ça très bien. Parce que, et d'ailleurs, vous savez, moi, je fais aussi une parenthèse pour dire qu'il y a un groupe de travail qui s'est constitué à l'échelle européenne, à la Commission européenne, sur comment on met la culture au service de l'accueil des migrants dans le contexte de crise des réfugiés. Donc c'est le même sujet que ma mission en France. Donc le ministère de la Culture m'a désigné pour participer comme représentant de la France à ce groupe de travail. Bon, je suis assez frappé que dans les pays qui font beaucoup de choses pour les migrants, et notamment en Allemagne, c'est la première chose qui est mise en place. C'est des choses qui sont dans les bibliothèques, en lecture. L'importance du livre et de l'écrit, hein, ça a été dit ce matin, dans la langue d'origine. Mais parallèlement, la médiathèque, la bibliothèque, c'est un lieu, c'est une porte d'entrée vers le français. Et la langue française, c'est un vecteur aussi de culture. Donc quand on vient apprendre le français dans une bibliothèque, éventuellement, après on s'intéresse à la littérature en français. On peut aller aussi au théâtre ou dans les musées. Il y a des associations qui sont de très bonnes passeuses, comme ça, de culture, à l'occasion de l'apprentissage du français. Moi, ça fait partie des choses que j'essaye de repérer dans ma mission. Parce que finalement, pour apprendre le français, on peut aller, dans le cadre du contrat d'intégration républicaine, dans une boîte qui fait du FLE, pour apprendre un français propice à trouver ensuite un emploi. Mais on peut aussi aller voir une pièce de théâtre ou visiter un musée. Et il y a beaucoup d'associations, notamment autour des musées ou des institutions de cette nature, qui font, à l'occasion de l'apprentissage du français, des sorties culturelles, et moi je trouve que c'est une formidable façon de faire société commune, justement. Il y a une question qui a été soulevée à plusieurs reprises, et là on touche un peu aussi à la limite du métier de bibliothécaire et des missions des bibliothèques, c'est comment on favorise l'accès aux droits pour les migrants. Donc je sais que la BPI a signé une convention avec France Terre d'Asile pour justement avoir des moments un peu de coaching pour les migrants. Moi, je n'ai pas de réponse là-dessus. C'est vrai que ça a été rappelé ce matin par la CIMAD. La question de l'accès aux droits, c'est une question parfaitement centrale en France, parce qu'on oublie souvent que par rapport à d'autres pays, même en Europe, le fonctionnement de la République française est très basé sur le droit. C'est-à-dire, en fait, on ne peut entrer en France que à la condition de bénéficier de certains droits dont il faut apporter la preuve qu'on peut les obtenir. Et en fait, on est toujours sur un terrain qui est extrêmement juridique. Ça commence par l'obtention du visa, comme ça a été rappelé ce matin, mais ça continue. Donc cette question-là est très importante. Moi, je n'ai pas de réponse. Je sais que c'est une question, en tout cas, importante de savoir jusqu'où il faut outiller. Enfin, quelqu'un a parlé, justement, de mettre en place une boîte à outils, des ressources pour que les migrants puissent s'intégrer plus facilement. Ça fait partie des vraies questions, je pense. Alors évidemment, il y a une question qui m'intéresse beaucoup dans le cadre de ma mission, c'est comment les bibliothèques peuvent faire porte d'entrée pour la culture, sachant qu'en France, la vision qu'on a plutôt dans notre modèle d'intégration républicain, c'est qu'on cherche plutôt à favoriser la culture commune que les cultures au sens culture d'origine. Je pense que c'est une question importante et bon, on n'a pas de recette toute faite. Bon, ce qui se fait par exemple ici dans ce musée me paraît assez intéressant parce que finalement on ne raconte pas l'histoire de communautés culturelles présentes en France, on raconte l'histoire commune que l'immigration a fait, enfin, le destin commun de la France avec cette histoire de l'immigration. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de projets à développer sur ces thèmes-là. J'y reviendrai peut-être un tout petit peu tout à l'heure si j'ai le temps. Moi, j'ai bien aimé l'idée qui a été esquissée par Lola aussi à la fin sur l'idée que les bibliothèques, c'est des lieux de rapprochement. Moi, je pense que c'est une belle idée qui est assez généreuse et qu'il faut essayer de décliner en pratique. Ça m'a frappé dans les interventions aujourd'hui qu'on n'a pas tellement parlé des autres usagers des bibliothèques, parce qu'éventuellement, ils ne sont pas forcément totalement à l'aise quand il y a beaucoup de publics réfugiés ou migrants qui occupent les salles. Donc, je ne sais pas comment on fait aussi un peu de communauté ou de partage entre les usagers. C'est un sujet, je n'ai pas de réponse simplement parce que je n'y connais rien et ce n'est pas mon métier, mais par contre, dans le cadre de ma mission, ça m'intéresserait qu'on m'explique ce qu'on peut faire pour créer de la complicité entre les différents usagers, qu'ils soient habitués ou pas des bibliothèques. Ce matin, j'ai noté dans l'intervention de Naïma Yahi des préconisations assez pratiques que j'ai trouvées intéressantes, notamment l'idée de faire un répertoire des professionnels ou des gens qui sont des ressources sur les sujets. Je pense que ça manque vraiment dans le réseau d'échanges professionnels, pas seulement pour les bibliothèques, hein, je pense que dans le secteur culturel, en gros, moi d'ailleurs je participe à une autre instance du ministère de la Culture qui est le Collège de la Diversité, et il y a des gens qui ont proposé exactement la même chose sur la diversité culturelle, c'est-à-dire on a besoin d'avoir des gens qui ont une vraie compétence sur ces sujets-là pour diffuser à la fois les savoir-faire professionnels et aussi les bonnes pratiques. Et puis Naïma aussi a esquissé une idée que j'ai trouvée intéressante, parce qu'on a essayé de la mettre en pratique ici, au Palais de la Porte Dorée, mais pas toujours avec tout le bonheur souhaité. C'est l'idée de la coproduction des projets culturels avec les usagers. Ça, je pense que l'idée de la participation des habitants à l'élaboration des projets culturels, ça me paraît une idée forte, mais pas très facile à mettre en pratique. Moi, ce qui m'a frappé de manière générale dans les interventions, c'est l'idée que la bibliothèque n'est jamais un lieu de relégation, quelle que soit la nature du public, c'est toujours un lieu d'ouverture. Ça, je pense que c'est une idée vraiment importante. Et alors maintenant, Stéphanie ne m'a pas encore fait signe, hein, vous avez remarqué. Voilà. Si on essaye d'élargir un peu la réflexion sur des pistes plus générales sur le champ culturel, pour ne pas se limiter au strict secteur des bibliothèques. Ben, on voit bien que cette question de comment la culture fait sentiment d'appartenance à la société ou fait société commune, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une préoccupation qui a tendance à regagner du terrain. Moi, je pense que c'est pas tant la crise migratoire de ces derniers mois que aussi les attentats, parce qu'il faut quand même imaginer que tout ça est concomitant et que les gens qui ont commis des attentats en France, c'est pas pour la plupart d'entre eux des gens qui sont venus d'ailleurs. Hein. C'est pas comme dans les années 90 où il y avait des militants algériens qui venaient mettre des bombes en France. Les frères Kouachi, pour ne citer qu'eux, ils ont grandi dans le quartier où j'habitais il n'y a pas très longtemps. Donc moi, ça m'a vraiment posé la question de comment on fabrique de la haine de la France ou de l'amour de la France et quelle est notre responsabilité à nous. Parce que j'estime qu'en tant que professionnel de la culture, on a une responsabilité là-dessus. Quelle est notre responsabilité par rapport à ça? Moi, il me paraît urgent d'y réfléchir parce qu'en plus, il ne vous a pas échappé qu'il y a des menaces de repli identitaire, nationaliste, religieux qui encerclent l'Europe et pas seulement l'Europe, les États-Unis aussi. Donc je pense que toutes ces questions me paraissent assez importantes. Moi, dans le cadre de ma mission, je rencontre beaucoup les opérateurs du ministère de la Culture, mais aussi beaucoup les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Et j'ai été assez surpris parce que je suis assez bien reçu au ministère de l'Intérieur, parce que les gens, ne rigolez pas, c'est sérieux, les gens, ils ont vraiment pris conscience, je pense, après les attentats, qu'il fallait un peu réécrire le logiciel. Et que ce qu'on a fait, notamment en matière d'intégration ces dernières années, c'est pas parfaitement réussi. Et donc moi, je suis persuadé, en tout cas, je milite pour ça au sein du ministère de la Culture, je suis persuadé que le service public de la culture a un rôle majeur à jouer sur comment on refabrique de la citoyenneté et des valeurs communes dans une société qui est évidemment en perte de repères. Pour terminer, puisqu'il ne me reste plus qu'une minute, là, Je voulais juste revenir sur un point qui a été soulevé aussi, c'est la question des étudiants étrangers, parce que souvent, quand on parle des migrants, on oublie que, vous savez, on dit, dans les journaux, on lit toujours, bon, en gros, il y a 200 000 immigrés qui rentrent chaque année en France. Alors d'abord, ça, c'est les entrées, donc il y a aussi des sorties. Et puis, là-dessus, il n'y a que 10% d'immigration de travail. C'est très peu, hein. Il y a très peu de gens qui... Yvon l'a dit ce matin, il y a des travailleurs immigrés, il n'y en a plus beaucoup. Donc c'est qui alors les étrangers qui viennent en France? C'est pas les touristes, parce que vous savez qu'il y a 70 millions de personnes étrangères qui rentrent en France chaque année. Donc vous voyez que le flux régulier d'immigration, c'est un tout petit morceau des mouvements de population. 70 millions d'étrangers qui rentrent en France chaque année, 200 000 qui s'y installent. Sur les 200 000 qui s'y installent, un tiers, c'est les étudiants. La France, c'est le troisième pays du monde pour l'accueil des étudiants. 280 000 étudiants en France à l'instant T. Donc la question aussi de comment on s'adresse aux étudiants étrangers, ça me paraît intéressant. Et c'est, je pense que les universités font beaucoup de choses et ça ne se sait pas beaucoup non plus. Depuis le début de la crise des réfugiés, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup d'universités qui ont accueilli en auditeur libre des migrants, des réfugiés ou des demandeurs d'asile. Souvent, ces gens n'avaient pas d'équivalence de diplôme ou pas de place à l'université. On les a quand même accueillis. Et je signale, parce que c'est peut-être pas quelque chose qui est très connu, que l'association des écoles d'art, donc les écoles qui dépendent du ministère de la Culture, c'est pas que les Beaux-Arts, c'est les écoles d'architecture notamment aussi, ont lancé un programme pour accueillir le maximum de réfugiés dans les écoles, avec un succès plus ou moins... évident, parce qu'il n'y a pas tant de réfugiés dans les professions artistiques et culturelles qui choisissent la France, ce qui est aussi un problème. Mais par exemple, l'école d'architecture de Lille, qui est celle qui a accueilli le plus de réfugiés l'année dernière, en a accueilli 30, ce qui est finalement pas si mal à l'échelle d'une école d'architecture. Voilà, et puis le dernier point, une minute, ça y est. Je pense que le dernier point sur lequel je vous invite à une réflexion pour l'avenir, c'est... la question qui est une question qui nous a beaucoup intéressé ici au musée de l'histoire de l'immigration depuis bientôt 10 ans que nous existons, c'est comment on change le regard de la société sur l'immigration et sur les migrants. Parce que il ne vous échappe pas que la société française, comme toutes les sociétés développées, fonctionne avec des médias qui fabriquent des stéréotypes et des amalgames en permanence sur ces questions-là. Donc je pense que le service public de la culture a aussi un rôle, une responsabilité par rapport à ces questions-là. Évidemment, le musée d'histoire de l'immigration, c'est sa fonction statutaire de changer les regards, parce que c'est ce qui figure dans le décret qui crée ce musée national. Et je pense que tous les opérateurs de la culture, à leur niveau, ont éventuellement un travail à faire dans ce domaine-là. Pas seulement pour expliquer les enjeux de l'histoire de l'immigration et de l'intégration des migrants, mais tout simplement parce que la société dans laquelle on vit aujourd'hui est une société métissée et que finalement on est amené à une transformation de la société qui est inhérente au monde moderne. Il y a une recomposition des identités et je pense que nous, professionnels de la culture, on est aussi là pour donner des clés et des ouvertures. Et bon, je pense, moi qui me suis beaucoup ouvert dans ma vie personnelle par la lecture, je pense que l'écrit a un rôle majeur à jouer dans ce domaine-là. Et je pense que c'est une piste de travail intéressante. Voilà ce que je voulais vous dire. Je termine juste en disant que l'idée d'une réunion régulière des professionnels pour s'outiller, échanger les bonnes pratiques, ça me paraît une excellente manière de travailler et je pense qu'il faudrait le développer à l'avenir. Donc j'espère qu'il y aura d'autres réunions de cette nature. Et moi, je lance aussi un appel parce que je suis chargé par le ministère de la Culture de faire des préconisations sur comment mieux accueillir les réfugiés dans le domaine, dans le secteur de la culture. Donc je suis dans l'attente de vos propositions, si vous en avez, de vos expériences, si vous avez envie de les partager avec moi. Et je termine juste, ça y est, maintenant j'ai dépassé mon temps, en disant que dans le cadre européen, donc il y a un groupe de travail qui phosphore, mais il y a aussi des subventions qui ont été mises en place par l'Union européenne dans le cadre de... Vous savez, il y a un grand programme à moyen terme de financement de la culture qui s'appelle Europe Créative. Et donc, dans ce grand programme à moyen terme, il y a la quatrième priorité, c'est un peu technocratique, hein, c'est Bruxelles, qui s'appelle la priorité D, et c'est le développement du dialogue interculturel. Et donc, dans le cadre de cette priorité D, il y a un financement spécifique pour les projets culturels qui favorisent l'intégration des migrants. Donc, si vous avez dans vos différents établissements des projets, alors c'est un peu contraignant parce qu'il faut les faire avec 3 pays européens minimum. Mais moi, je suis persuadé qu'avec l'Allemagne et avec un pays du Sud, on peut monter des projets. Et je pense, compte tenu de ce que font en France les bibliothèques, je pense que ça serait intéressant éventuellement que vous pensiez à déposer, je ne sais pas par l'intermédiaire de quel réseau, mais un projet de demande de financement européen, parce que je crois qu'il y a des bonnes pratiques aussi à échanger avec les Allemands, avec les Italiens, etc. Et je pense que ça serait aussi une piste de travail intéressante, parce que... pour faire du réseau, il faut avoir un peu d'argent et l'Europe en donne un peu. Donc voilà. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Merci à tous les intervenants, à nos traductrices. Et à très bientôt.
Merci beaucoup à tous. Je tiens une nouvelle fois à remercier tous les participants et toutes les participantes à cette journée, à vous remercier, vous, public, à remercier l'ensemble des partenaires de cette journée, donc Annie Dourlan et Léonore Clavreul pour la BPI, nos amis de l'Association des bibliothèques du 93, Héloïse Guénogues, Martine Pujol, pardon, j'oublie des noms, Adèle, j'oublie les noms. Je remercie également Charlotte Pedriot qui a coordonné cette journée, et c'était pas une mince affaire, et bien sûr, salut.